une vie de prière renouvelée. Oui, nous la voulons, parce qu'il y a tant, tant, tant encore à découvrir. Alors, la première idée qui est venue sur mon cœur, la première parole que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de constater que pour avoir cette vie de prière renouvelée, épanouie, grandissante, en foi, en puissance, en piété, il convient de parler tout d'abord d'une vie de prière structurée, une vie de prière diversifiée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, pour lire le verset 1er, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Et là, Paul écrit, « J'exhorte donc, en tout premier lieu, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des intercessions ou supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Des requêtes, des prières, des intercessions et des actions de grâce. » Lorsque Jésus avait conduit ses disciples à l'écart des foules pour un temps de retraite spirituelle, il consacra du temps à la prière. Et les disciples observaient. Nous ne savons pas exactement comment Jésus priait, s'il priait audiblement ou intérieurement. En tout cas, les disciples furent saisis par l'intensité spirituelle avec laquelle Jésus priait. Et certainement, ils ressentirent toute la présence et la plénitude du Saint-Esprit qui était sur Jésus à ces instants-là. Et quand il eut fini de prier, ils s'approchèrent de lui et ils lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comment est-ce que Jésus leur répondit? Bien sûr, il leur donna cette magnifique prière du Notre Père. Et nous savons que le but de Jésus n'était pas de nous amener à répéter cette prière, mais à trouver là des pensées pour nous guider dans la prière. Mais avant même, il leur dit « Voici comment vous devez prier ». Et donc dans cette parole-là, « Voici comment vous devez prier », il y a donc l'idée de bâtir quelque chose, de construire. Non, nous ne sommes pas là pour prier à tout vent, de prier à travers les choses qui nous passent par la tête ou par le cœur, d'après les circonstances ou les événements, mais nous devons bâtir davantage. Vous savez, je ferai la comparaison avec la lecture de la Bible, où certains se contentent d'une lecture de la Bible superficielle, voire même un peu hasardeuse. Où est-ce que je vais tomber aujourd'hui? Dans quel livre je vais me retrouver? Et se contentant alors de quelques versets et se disant que Dieu va leur parler ainsi, Dieu est capable de le faire, c'est vrai. Mais le Seigneur veut davantage pour notre vie de méditation de la parole. Il veut nous inviter à nous nourrir d'une manière intelligente, à construire nos lectures. Eh bien, c'est la même chose avec la prière. Nous pouvons simplement prier d'après l'air du temps. Ok, nous prions, c'est vrai. Ou alors nous pouvons prier d'une manière structurée, réfléchie, spirituelle, en vue d'atteindre des buts précis. L'apôtre Paul mentionne donc dans ce texte quatre domaines dans lesquels nous pouvons exercer la prière, des domaines qui sont à la fois complémentaires et progressifs, spirituellement parlant. Il parle tout d'abord de requêtes ou demandes. Il parle ensuite de prière, d'intercession ou de supplication, et enfin d'action de grâce. Et nous allons nous arrêter un peu sur ces quatre points et considérer comment le Seigneur peut nous amener à progresser dans la vie de prière à travers ces quatre domaines. Tout d'abord, les requêtes. Les requêtes ou les demandes. Ces requêtes sont la présentation donc de nos demandes à Dieu. Leur contenu est aussi vaste que la diversité des besoins de nos vies, des difficultés, des soucis, des obstacles que nous pouvons rencontrer. Nous devons apprendre à demander. Jésus nous a dit « Demandez et vous recevrez ». Et dans son texte, Paul ne méprise pas du tout nos requêtes, nos demandes, mais même il les place en premier. Je dirais que c'est touchant de constater que Dieu demeure fidèle et qu'il a à cœur que nous puissions lui adresser nos demandes, nos requêtes, que nous puissions l'exprimer, nos besoins. Je pense aussi que si cette idée de requête est mise en premier dans cet ordre, c'est parce que certainement ce domaine-là de la prière est le plus simple pour nous afin d'apprendre véritablement ce qu'est la prière, afin de grandir dans la prière. Parce que la prière efficace, la prière fervente qui a une grande efficacité, c'est une prière qui sait atteindre le cœur de Dieu d'une manière particulière. Nous devons, par exemple, apprendre à lever les obstacles à la prière. L'iniquité dans les cœurs. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Ce qu'on peut avoir contre quelqu'un, ce que les autres peuvent avoir contre nous. Et le Seigneur nous invite à pardonner ceux qui nous ont offensés, comme nous aussi nous avons été pardonnés. Le pardon est une base essentielle, obligatoire, pour pouvoir élever nos voix. Mais il y a plus. En exprimant nos requêtes à Dieu, nous apprenons aussi à nous accorder à la volonté de Dieu. Nous apprenons à, exprimer non pas nos passions, nos désirs, mais nos besoins. Parce qu'on peut demander bien des choses. Et l'apôtre Jacques nous dit, vous demandez mais vous n'obtenez pas, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas selon Dieu, mais vous demandez selon vos passions. Et Dieu ne répond pas à nos passions. Et il est bon des fois que le Seigneur nous dise non, parce que ce n'est pas là ce qu'il a préparé pour nous. Et ça aussi, c'est l'apprentissage de la prière. L'apprentissage de la prière dans les requêtes, c'est aussi apprendre à prier avec foi. Parce qu'après tout, il est dit « demandez et vous recevrez ». Non pas simplement « demander ». Si nous demandons, c'est bien pour recevoir quelque chose, en croyant que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si nous prions, c'est parce que nous croyons que nous avons un Dieu capable de répondre à nos besoins. Et dans l'expression de nos requêtes, nous avons là un terrain favorable pour apprendre à développer la foi, mais à développer aussi la persévérance. Il y a des moments où Dieu nous répond presque immédiatement, devance même nos prières. Mais il y a des moments où le Seigneur nous amène à patienter, à savoir attendre, à savoir rester confiant dans sa grâce et dans son amour pour nous. Donc les requêtes, l'expression de nos requêtes, de nos besoins, sont vraiment un bon moyen d'apprendre à prier, d'apprendre à développer une prière structurée et efficace auprès de Dieu. Mais il est évident que nous devons aller plus loin. Nous devons dépasser, sans le négliger, sans le mépriser, le stade du « bénis-moi Seigneur ». Pour comprendre que la prière, c'est un service. La prière, c'est un ministère qui n'est pas réservé aux pasteurs ou aux anciens de l'Église, mais j'appellerais ça un ministère universel dans l'Église. Nous sommes tous appelés à développer un service de prière pour tous les hommes, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, ayant appris à présenter nos requêtes à Dieu, le Seigneur maintenant veut nous amener plus loin et l'apôtre Paul nous parle ensuite de prière. Après les requêtes, les prières. Ici, nous avons un terme générique. Dans son étymologie, le mot qui est derrière prière peut couvrir en fait toutes sortes de prières. Mais malgré tout, ici, Paul a quelque chose de plus ciblé en vue. Quand il parle de prière, il parle de ses besoins qui sont toujours présents dans l'Église, en opposition avec les requêtes qui sont beaucoup plus ponctuelles. Il existe des besoins permanents dans l'Église ou dans l'œuvre de Dieu. Elles n'ont pas forcément un objet bien déterminé, bien précis, mais malgré tout, le Seigneur nous demande de prier pour ses prières générales, pour ses sujets généraux. Quelques exemples. Nous prions pour plus de sagesse. Nous prions pour plus de justice, pour plus de foi, pour plus de paix, pour plus de consécration. Et l'Église est engagée dans cela. Et nous le verrons dans quelques semaines, lorsque nous sommes engagés dans ce ministère, nous participons à ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, nous participons à retenir la manifestation de la puissance de l'Antéchrist, de l'esprit de l'Antéchrist dans ce monde. Mais Jésus nous dit aussi, par exemple, dans Matthieu 9, 38, de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce une prière ponctuelle ou un besoin permanent? C'est un besoin permanent, évidemment. Nous prions ainsi pour l'Église, nous prions pour la mission, pour nous envoyer en mission. Nous prions pour toutes sortes de besoins qui sont là, pour l'action du Saint-Esprit, pour l'évangélisation de notre ville. Alors quand on met ces prières ensemble, ces prières qui sont parfois très simplement exprimées, elles deviennent une espèce de faisceau de prières, vous voyez ? Un faisceau puissant de prières qui, tout au long de l'histoire de l'Église, a porté l'œuvre de l'Église. Car ces prières regroupées ensemble sont un peu ces prières dont il est question dans Apocalypse 5. Vous savez, ces anciens, ces vieillards qui sont devant le trône de Dieu et qui tiennent dans leurs mains des coupes d'or remplies des prières des saints. Voilà nos prières. Voilà lorsque nous prions pour nos envoyés, lorsque nous prions pour l'Église, lorsque nous prions pour que Dieu lève des ouvriers du milieu de nous, des prières qui peuvent paraître simples, mais elles ne sont pas oubliées de Dieu, qui les garde auprès de lui et qui bénit ainsi son œuvre à travers notre intercession, notre prière. Ces prières aussi démontrent au Seigneur notre attachement à son œuvre. Nous lui montrons que nous avons dépassé le simple « bénis-moi » pour commencer à vouloir prier pour les autres, à prendre à cœur l'œuvre de Jésus, à prendre à cœur l'Église, à prendre à cœur l'évangélisation, à prendre à cœur la mission. Seigneur, ça m'intéresse, alors je veux commencer à prier cela. Et si tout à l'heure je vous disais que j'associe à cette idée de requête le verbe « demander », je pourrais associer à cette idée de prière le verbe « chercher ». Et l'on comprend que ça nous engage un peu plus. Demander. Et quand on demande à quelqu'un, c'est qu'on attend tout de lui. Chercher, ça nous implique, ça nous engage. Il faut faire une démarche. Il faut aller fouiller, il faut prendre du temps. Nous pensons à cette femme qui avait perdu sa pièce de monnaie, la drachme, vous vous rappelez, dans Luc chapitre 15, et qui va chercher dans sa maison jusqu'à ce qu'elle ait trouvé cette pièce. Ces prières nous rapprochent. Elles nous rapprochent de l'Église. Elles nous rapprochent de nos frères, de nos sœurs. Elles nous rapprochent même de nos envoyés sur les champs missionnaires, même s'ils sont au-delà des mers et des océans. Lorsque nous commençons à prier pour eux, il y a une union spirituelle qui se fait. Nous ne les connaissons pas forcément, ils ne nous connaissent pas forcément. Mais spirituellement, nous sommes ensemble. Nous nous associons ensemble et nos prières sont une bénédiction pour eux. Mais voyez-vous, ce n'est pas une prière lointaine. Malgré la distance, nous cherchons et nous sommes rapprochés dans un cœur à cœur. Et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur se fait. Alléluia. Paul parle ensuite de l'intercession. Alors, je veux revenir tout d'abord à la source même de ce qu'est l'intercession. Et vous dire tout d'abord que la prière d'intercession ou prière de supplication, c'est avant tout une prière d'intimité. C'est avant tout l'idée d'une rencontre qui est exprimé dans ce mot. Dans son origine, dans son étymologie, le mot qui est derrière intercession nous parle de rencontrer quelqu'un. C'est drôle parce que ce n'est pas ce qu'on dirait nous-mêmes lorsqu'on pense d'abord à intercéder. Mais intercéder veut dire rencontrer quelqu'un, avoir accès à quelqu'un particulièrement, avoir une entrevue royale. Oh oui, une entrevue avec le roi des rois. La véritable prière d'intercession, et nous devons comprendre ce point, n'est pas liée à nos clameurs, n'est pas liée à nos prises de position, mais elle est liée à notre communion avec Dieu, à notre intimité, à notre proximité avec le Seigneur. Je peux citer l'exemple d'Abraham qui se tenait dans la présence de Dieu lorsqu'il vint visiter la terre au jour de Sodome et de Gomorre. Je peux penser à Esther, qui avait demandé à Mardochée que le peuple juif jeûne pendant 3 jours pour qu'elle ait ensuite accès auprès de son époux, le roi Assuérus, qui lui tendrait le sceptre d'or pour qu'elle puisse s'approcher de lui. La prière d'intercession, c'est cela, c'est s'approcher de Dieu, trouver le chemin qui nous mène jusqu'au Seigneur. Alors, si je me retourne vers la parole du Seigneur, aux requêtes demandées, aux prières cherchées, à l'intercession, frappez, frappez. frapper à la porte des cieux, frapper à la porte de Dieu et vous dire que cette porte nous est ouverte et que le Seigneur nous accueille dans sa présence. Mais il est évident que cette porte, ce n'est pas sur la terre que nous la trouvons, mais dans les cieux. C'est une image spirituelle, mais qui nous montre qu'il est nécessaire, avant de rentrer dans ce ministère d'intercession, de s'approcher de Dieu, d'être de plus en plus proche du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul place l'intercession après la prière et après les requêtes, qui nous prépare, qui nous élève au fur et à mesure. On comprend bien que lorsqu'on est engagé dans la prière générale pour l'Église, eh bien, il y a là un fond. On démontre à Dieu qu'on est fidèle dans les petites choses pour ensuite passer à des choses plus importantes, plus élevées encore dans l'expression de la prière. La prière d'intercession, c'est une prière de supplication. C'est une autre manière de traduire le mot intercession. Mais je voudrais vous faire comprendre et réaliser que lorsqu'il est question d'intercession, il n'est pas question de gémir. Oh Seigneur, c'est terrible tout ce qui se passe autour. C'est terrible ces catastrophes. C'est terrible ces drames autour de moi. Il n'est pas question non plus de s'apitoyer sur tel ou tel sort. Non, ce n'est pas ça, supplier Dieu. Nous rappelons Lot, que Pierre appelle Lot le juste, et qui tous les jours tourmentait son âme juste, au point qu'il se tenait à l'extérieur de la ville de Sodome, à la porte, parce qu'il ne supportait plus ce que ces hommes de Sodome, qui étaient livrés à toutes leurs passions, accomplissaient. N'empêche qu'après avoir gémi, après s'être tourmenté, le soir venu, il retournait dans sa maison qui était au milieu de Sodome. Ça, c'est gémir. Ça, c'est s'apitoyer. Mais ce n'est pas supplier. L'apôtre, le prophète Joël, pardon, nous dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Ça, c'est vraiment la prière d'intercession, la supplication. Je prendrai d'autres exemples où Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, un homme qui se sent concerné, un homme qui accepte aussi de transformer ce sentiment en action. Et je citerai Daniel, vieillard de plus de 80 ans, qui, ayant lu dans le livre du prophète Jérémie qu'après 70 ans de déportation, le peuple juif devrait rentrer en Israël, n'a pas simplement dit « Ah, ça y est, nous sommes arrivés presque à la période, préparons-nous, faisons les valises et allons-y ». Mais lorsqu'il a lu cette prophétie de Jérémie, qu'il a compris que le temps arrivait, il s'est mis à genoux. Il a prié, il a intercédé, il est allé chercher la présence de Dieu, il a frappé à la porte de Dieu, qui lui envoya un ange. Et l'ange lui dit « Dès que tu as commencé à prier, dès que tu as commencé à parler, alors il y a des choses qui se sont passées dans les cieux. » Je pourrais prendre l'exemple de Néhémie quelques dizaines d'années après Daniel. Son frère Hanani revient de Jérusalem et lui dit « La ville de Jérusalem est dans l'opprobre, c'est une catastrophe, tout est détruit. » Et Néhémie aurait pu dire « Oh, quel malheur, quel désastre !» Oui, il a été remué dans son cœur. Mais les sentiments qui sont nés ce jour-là l'ont amené à prier pendant 4 mois, à prier pour Jérusalem, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre le temps et l'accès favorable auprès du roi pour lui demander l'autorisation de retourner à Jérusalem pour bâtir les murailles. Dieu cherche des hommes, des femmes concernés et qui acceptent de transformer ces sentiments en action. Dieu ne veut pas nous donner à porter toute la misère du monde. Je vais vous dire d'une certaine manière, quelqu'un l'a fait, c'est Jésus. Oui, Jésus a porté toute la misère du monde. Lorsqu'il était dans le jardin du Gethsémané, lorsqu'il a accepté de dire non pas ma volonté mais la tienne et de prendre cette coupe, il a pris une coupe qui était une coupe de malédiction, une coupe de misère. Et il est rentré dans une prière d'agonie où la pression était tellement grande que du sang a coulé de ses tempes pour finir sur le sol. Jésus a porté toute la misère du monde. Mais ce que Dieu désire, c'est trouver parmi nous des hommes, des femmes qui se sentent concernés pour dire « Seigneur, je veux bien prendre un fardeau. Je veux bien me sentir concerné par telle situation. » Dieu cherche quelqu'un de disponible. Dieu cherche quelqu'un qui a envie de prendre un fardeau et de l'amener à bonne destination jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux avancer dans son ministère de prière. Seigneur, mets sur mon cœur une situation. Non pas simplement pour que je pleure dessus, mais pour que je puisse prier. Pour que je puisse prier et apprendre à te supplier. Touche mon cœur, Seigneur. Mais d'une compassion qui me mène à l'action. La prière d'intercession, c'est mon troisième point, une prière d'intimité, une prière de supplication. C'est une prière de l'esprit, je dirais, c'est la prière de l'esprit, esprit avec un grand E. Il en existe deux qui intercèdent. Il y en a un qui intercède dans les cieux. Nous en avons longuement parlé, c'est Jésus. Hébreux 7, 25, il est toujours vivant pour intercéder en faveur des saints. Alors je ne reviendrai pas sur le ministère d'intercession de Jésus, mais je veux parler sur le ministère d'intercession du Saint-Esprit. Si Jésus intercède dans les cieux, nous pouvons dire d'une autre manière que le Saint-Esprit intercède sur la terre. Et il intercède à travers nous. Il est dit dans Romains 8, versets 26 et 27, et au verset 27, que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Mais le Saint-Esprit intercède à travers nous. À travers nous. Et si vous avez vos Bibles sous les yeux et que vous regardez ces versets, Romains 8, 26 et 27, vous verrez qu'au verset 26, il est aussi question de l'intercession par des soupirs inexprimables. Alors c'est le même verbe dans nos traductions françaises, et c'est vrai que la racine de ces verbes est la même en grec, sauf qu'au verset 26, l'apôtre Paul a rajouté un petit préfixe à intercession. Il a rajouté le préfixe grec « hyper », qui a donné en français « hyper ». Ainsi, l'apôtre Paul nous parle de l'hyper-intercession du Saint-Esprit. Que c'est déjà grand, l'intercession de l'Esprit. Mais alors, que penser de l'hyper-intercession du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit désire hyper-intercéder à travers nos vies. Comme Jésus l'a fait dans le jardin du Gethsémané, dans cette prière d'agonie, dans cette prière d'hyper-intercession. Mais nous comprenons que pour que le Saint-Esprit puisse mener cette hyper-intercession à travers nos vies, il y a besoin que nos cœurs soient travaillés, qu'ils soient prêts à cela. Que nous ayons une vie de prière structurée, bâtie, cohérente, progressive. Sinon, nous ne pourrons pas tenir le choc. Mais le Saint-Esprit est là. Et il cherche quelqu'un qu'il peut engager dans ce ministère. Quelqu'un qui va accepter de devenir ce canal de l'hyper-intercession de l'Esprit. Quelqu'un qui va être même dépassé dans toutes ses forces et qui aura besoin de tout le soutien du Saint-Esprit. Il peut arriver que ce genre de prière nous amène à devoir aller au-delà de nos paroles, à aller même au-delà de nos langues que le Seigneur peut nous donner, pour ne laisser d'autre recours que des soupirs inexprimables par lesquels nous faisons monter nos cris par le Saint-Esprit à Dieu. Avez-vous déjà connu ça ? Ces moments d'intense présence de l'Esprit, son souffle divin qui passe à travers nos vies, cette communion avec Dieu. Les hommes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, surtout eux qui nous en parlent le plus, nous expriment que dans ces temps, leurs forces disparaissent. Ils sont presque écrasés. Mais quelle puissance se dégage. Car la véritable prière d'intercession par le Saint-Esprit, c'est la prière de puissance. Une puissance qui nous dépasse complètement. D'une prière d'autorité. D'une prière de combat. Donc je peux donner un exemple à travers le prophète Daniel, qui pendant 3 semaines a été conduit par le Seigneur à exercer un jeûne partiel puisqu'il mangeait des légumes et ne mangeait pas de viande sophistiquée, et qui pendant 3 semaines a prié. Il a prié, mais il ne savait pas pourquoi il priait. Mais il y avait des choses qui se passaient au-dessus de lui, dans les cieux invisibles. Et au bout de 3 semaines, L'ange est venu le visiter et lui a dit, nous avons mené un combat. Michaël avec moi, nous avons mené un combat contre le chef des dominations perses. Et Daniel, sans le savoir, dans cette prière de supplication, dans cette prière de soupir, avait été utilisé par le Saint-Esprit pour soutenir ce combat dans les lieux célestes. Je pourrais vous parler de plusieurs témoignages, je l'ai déjà fait, où Dieu a pu me réveiller une nuit et où un sentiment, un esprit de mort était sur moi. Mon épouse était à côté, elle n'avait rien senti, mais sur moi un esprit de mort et Dieu m'a poussé à prier. Je suis allé pendant 2 heures, 3 heures. Et le lendemain, j'ai compris pourquoi. Parce qu'un collègue, cette nuit-là, avait connu une grave crise cardiaque. Et quand Dieu m'avait dit « c'est fini », pour lui aussi, la paix, le calme était revenu. Ça, c'est la prière de l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur aussi finit par nous parler par les actions de grâce. Paul nous parle des actions de grâce. Et je voudrais simplement mentionner rapidement 3 choses concernant les actions de grâce. Et vous dire tout d'abord que l'action de grâce est un acte d'adoration. C'est l'expression de notre gratitude. Nous rendons grâce à Dieu. L'action de grâce est un acte de proclamation. Quand nous rendons grâce à Dieu dans l'Église, nous témoignons de la puissance du Saint-Esprit, de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Et enfin, l'action de grâce est un acte d'édification de la foi. Parce que celui qui écoute est fortifié dans sa foi. Il ne dit pas « je suis jaloux de ce que lui était béni ». Mais il dit « Seigneur, ma foi est fortifiée parce que tu agis. » Et ainsi d'autres actions de grâce seront apportées. Alors, pour finir, je vous redirai, Jésus nous a montré un chemin. Il nous a dit comment nous devons prier, non pas d'une manière aléatoire ou selon ce qui nous passe par la tête, mais en construisant notre vie de prière. Requête, prière, intercession, action de grâce. Que Dieu puisse vous amener à réfléchir sur cela et à organiser vos temps de prière de sorte que vous puissiez goûter à ces choses et laisser Dieu vous renouveler dans votre vie de prière. Amen.